Cette chronique Communication Actualité est une présentation de l'agence de communication Les Fous de la Com, spécialisée dans les contenus et stratégies d'impact.
Bonjour Denis.
Bonjour Guylain, bonjour tout le monde.
Hey, on a-tu une belle journée aujourd'hui? Enfin, ça fait du bien. Je ne sais pas si c'est le beau soleil chez vous aussi.
Oui, ben enfin, il y a du soleil et des nuages. Puis, ben, c'est doux aujourd'hui. Demain, ça va être un peu plus froid. Vendredi également.
Ah, pas nous. Demain, c'est encore plus beau. C'est vrai qu'on a ce qu'on mérite. Fait que, ben, c'est tant pis pour toi.
Mon Dieu, cette valeur, la neige que vous avez eue ces derniers jours.
On méritait pas ça. Alors, tu as trois gros sujets pour nous aujourd'hui. Je pense que tu as encore travaillé fort, hein?
Ouais, ben enfin, les journalistes qui rapportent la nouvelle, moi, ça me permet de faire des commentaires parce qu'au palais de justice de Shawinigan, actuellement, c'est la deuxième journée de l'enquête du coroner sur des morts, beaucoup de morts qui sont survenus au CHSLD, La Flèche, c'est dans le secteur grand-mère de la ville de Shawinigan, l'an dernier, lors de la première vague de la pandémie. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'évidemment, il y a un intérêt pour l'ensemble du Québec. On a eu des éclosions à plusieurs endroits. Mais des enquêtes du coroner, Guylain, à ce que je sache, il n'y en a pas ailleurs. Je sais qu'il y a le CHSLD et Run, là, évidemment, qu'il y a des accusations probablement qui vont être portées au niveau criminel. En tout cas, c'est ce qu'on avait déjà laissé sous-entendre. Est-ce que tu as entendu parler d'une enquête du coroner, toi, ailleurs?
Non, je pense pas.
En tout cas. Non. Alors, ben, ce qui se passe dans notre région ici, ben, ça permet une enquête du coroner, même si on est au palais de justice, hein, c'est pas pour amener quelqu'un devant les tribunaux puis l'accuser formellement, c'est pas ça. C'est pour établir des recommandations à chaque fois qu'un coroner a à se pencher. Et là, on prend le cas d'une des 40 quelques personnes qui sont décédées lors de cette première vague pour finalement faire, je dirais, l'historique de tout ce qui s'est produit exactement avec ce cas. Et là, la deuxième journée aujourd'hui, c'est assez émotif parce que il y a des préposés aux bénéficiaires, entre autres, qui viennent témoigner, dont une dame qui a été plongée dans le coma, t'imagines, pendant plusieurs mois après avoir voulu aider des résidents, puis des résidents, entre autres, qui sont décédés. Donc, c'est quelque chose, hein, qu'est-ce qu'ils ont vécu à l'intérieur. Donc, quand c'est ta vie, imagine, tu viens travailler, puis d'ailleurs, le métier de journaliste, on le sait à travers le monde, lorsqu'il y a des conflits armés, bon, notre vie est en danger, mais beaucoup de préposés aux bénéficiaires se sont retrouvés dans cette situation. Il y en a qui sont même décédés durant la pandémie jusqu'à présent. Et dans ce cas-ci, ben, on est venu témoigner vraiment à quel point on était dépassé. Et moi, dans une certaine mesure, moi, ce qui me dépasse, Guylain, c'est on voyait ce qui se passait à l'international, entre autres en Asie. On voyait les mesures qui étaient prises, puis à quel point, même si c'était la première fois qu'on se retrouvait avec cette situation, ça a pris quand même du temps avant qu'on réagisse ici au Québec comme ailleurs. C'est comme si on n'y croyait pas que c'était pour arriver.
On a pensé que ça allait se passer comme avec la H1N1, hein, on s'en était quand même bien tiré. Là.
C'est exactement ça. Je trouve que ton commentaire est pertinent parce que c'est comme ça qu'on a réagi. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas d'identifié au départ comme des zones rouges, des zones chaudes, des zones froides dans les CHSLD. Donc, il y avait du personnel qui se promenait d'un CHSLD à l'autre parce qu'il manquait de personnel, parce qu'il y en a qui tombaient comme des mouches, ou si le gouvernement disait, ben, si vous craignez pour votre sécurité, vous pouvez sortir de l'établissement. Donc, ça a été finalement beaucoup d'employés qui ont quitté, tu t'en souviendras. Pas juste des gens qui ont été malades, il y a des gens qui avaient peur pour leur sécurité. Et avec les témoignages qu'on entend présentement, ben, ça glace le sang. Quand on apprend qu'une personne était comme ça dans le coma après avoir contracté la COVID-19, puis il y a encore des gens, un an plus tard, qui disent, ben non, on n'est pas dans une pandémie à l'heure actuelle. Donc, on est encore au pays des licornes. Donc, c'est assez particulier. Donc, je trouve ça intéressant ce qu'on fait présentement parce que faut se le dire, quand ça sera ce qu'on appelle terminer la pandémie, la COVID-19, on nous dit, ça, c'est des scientifiques qui disent ça, qu'il y en aura d'autres pandémies. Donc, on n'est pas à l'abri de d'autres problèmes de santé majeurs et il va falloir qu'on apprenne de nos erreurs. Donc, l'idée, c'est pas de dire, ben écoutez, c'est passé, puis maintenant, on doit vivre en 2021. Non, il faut absolument revenir sur nos pratiques parce que il faut qu'on apprenne de nos erreurs, il faut qu'on s'améliore parce qu'on va se retrouver encore avec cette situation, pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, dans 30 ans. On nous dit que ça va être des cycles de pandémie qui vont se produire. Donc, il n'y a pas personne qui peut être à l'abri. Même au niveau des vaccins, là, on parle d'une première dose, une deuxième dose, mais est-ce qu'on aura un vaccin à tous les ans? Alors, c'est ce qu'on verra. Puis le coronavirus, lui, il mute. Donc, lui aussi, il fait sa bataille, puis il se faufile, puis il fait ses dommages.
Sans compter que nos aînés méritaient pas mal mieux que ça, là.
Tout à fait. Pour eux qui ont bâti le Québec, ils étaient nombreux, hein, c'était des familles nombreuses. Alors, ils ont fait beaucoup, puis la vie, évidemment, peu importe l'âge, mérite d'être considérée. Donc, on doit faire tous les efforts. C'est important de le dire. Puis, en soi dit en passant, moi, je sais pas pour toi, là, mais je regarde encore sur le Clic Santé, c'est encore les 60 ans et plus, c'est possible d'avoir AstraZeneca. Mais moi, je me garde une petite gêne de ce côté-là, puis je vais attendre parce que, justement, on a le choix. Quand on nous dit, écoutez, le meilleur vaccin, c'est celui qu'on peut vous administrer, mais avec ce qui est arrivé, le cas d'une thrombose, même si on dit que les statistiques sont de 1 cas sur 100 000, moi, je me dis, étant donné que j'ai le choix, moi, je vais attendre. Puis, je pense pas que ce soit nécessairement une peur parce que je vais faire une grande révélation. J'ai fait, moi, régulièrement des études de médicaments. J'ai fait ça, moi, comme participant, comme volontaire.
Ah oui, t'as testé.
Ouais, j'ai fait ça. Écoute, j'ai dû en faire peut-être sur une dizaine, quinzaine d'années, j'ai dû en faire, oh, mon Dieu, peut-être une vingtaine, une trentaine d'études. Donc, avec des nouveaux médicaments, des médicaments génériques, des copies de médicaments qui sont déjà en vente libre. Donc, c'est pas une peur, mais je me dis, étant donné que j'ai un choix, puis en même temps, je peux révéler quelque chose de ma condition personnelle, j'ai un problème d'apnée du sommeil. Donc, c'est une question, évidemment, de voie respiratoire, puis c'est lié quelque part au cerveau. Alors, quand on pense à une thrombose au cerveau, j'ai pas envie d'être le numéro de loterie, là, puis que je vais être le prochain, tu sais, parce qu'AstraZeneca, il y a comme, je dirais, par rapport à Moderna, par rapport à Pfizer, qu'on dit qu'il peut y avoir des complications. Donc, s'il y a des gens, autant de gens actuellement qui achètent des billets de loterie, c'est parce qu'ils pensent gagner, hein, ils ont l'espoir de gagner. Donc, moi, j'ai pas envie que ça se retourne contre moi.
C'est ça.
Je vais attendre. Ça va prendre peut-être quoi, 2-3 semaines, 1 mois, là, avant que tout le monde puisse être vacciné. Là. On va avoir des vaccins en masse là, qui s'en viennent, entre autres de Pfizer. Là. Donc, on va se garder une petite gêne pour l'instant.
Oui, ça dépend de son état de santé. On est mieux de faire attention, c'est certain. Mais je ne savais pas que tu avais testé des médicaments. Lorsque je te lançais à la blague, vérifie ta médication, je n'étais pas dans le ton complètement dans le champ, hein, des fois.
Tu n'as jamais été dans le champ. pas dans le champ droit, mais dans le champ gauche, oui, souvent. Mais non, c'est vrai, tu disais ça à la blague, parce qu'on se taquine souvent par rapport à nos équipes de hockey sportives qu'on apprécie. Mais oui, j'ai fait volontairement des études de médicaments, puis ça a été pour moi mon apport à la cause. Puis de rencontrer des gens, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui prennent des médicaments, puis chaque médicament en vente libre, il y a des effets secondaires possibles. Donc,
oui.
Alors, comme j'ai le choix, je peux attendre pour le médicament, le vaccin, je vais attendre.
En effet. Une autre compagnie chinoise, maintenant, menacerait la sécurité d'importantes données des Canadiens. Pas encore.
Bien, on a parlé de Huawei beaucoup. C'était surtout les États-Unis. Donc, ça fronde contre la Chine. Donc, c'est toujours pas réglé, cette question-là. Puis, c'est très problématique pour le Canada parce qu'on a les fameux deux Michael là, qui sont présentement retenus. Est-ce qu'il y a un lien avec la dirigeante de Huawei. Donc là, c'est une autre entreprise, la société chinoise BGI, qui, semble-t-il, c'est au niveau des marchés des laboratoires des hôpitaux canadiens. Donc, il y a des données importantes, des renseignements confidentiels. Alors, ils cibleraient ce marché des laboratoires puis des hôpitaux canadiens. Il n'y a pas eu de grand débat public qui s'est fait jusqu'à présent. Alors, on sait que c'est une question importante, la question informatique, les données, la protection des données, des renseignements. On a eu évidemment le problème comme on sait au Québec, entre autres avec Desjardins. On se souviendra qu'à un moment donné, le ministre Pierre Fitzgibbon avait été placé dans l'eau chaude parce qu'on parlait de données qui auraient pu être vendues à des entreprises. Il y a eu une levée de bouclier à l'Assemblée nationale du Québec par rapport à ça. Donc, ça revient régulièrement de ce côté, mais au gouvernement fédéral à Ottawa, on nous dit qu'il n'y aurait pas de problème de ce côté-là. Mais quand une entreprise est déjà sur place, est déjà installée ici au Canada, il y a lieu, évidemment, de se poser de sérieuses questions. Même s'il y a des directives, il y a souvent des percées. Donc là, on se pose des questions par rapport à cette compagnie. Dans un message qui a été publié, entre autres, sur le réseau LinkedIn, MGI dit qui veut aider davantage les chercheurs canadiens à accéder à un séquençage de haute qualité et rentable, mais n'a pas voulu répondre aux questions des journalistes. Alors, je dirais qu'ils sont comme sous haute surveillance. Alors, on a souvent des attaques sur des serveurs. On voit ça régulièrement, du piratage de données. Donc, on n'en a pas fini de ce côté-là. Donc, à voir.
Là-dessus aussi, oui, personne n'est à l'abri, en effet. Maintenant, tu vas nous dire, Denis, pourquoi un logiciel de vente est tellement important dans la transformation numérique des entreprises?
Bien, on le voit à quel point, Guylain, la transformation numérique est importante avec tout le télétravail qui se fait actuellement. On a des gens qui sont un peu partout. Il y a des entreprises qui ont des filiales dans plusieurs régions du Québec. Et si on travaille d'une façon ordonnée, organisée, bien, ça prend des systèmes informatiques qui soient à la page et qu'on utilise finalement les technologies. Même si on vient juste de dire qu'il faut faire attention aux données, bien, comme de fait, il faut faire attention à ça en protégeant ces données. Parce qu'il y a des attaques qui peuvent se produire et c'est arrivé dans plusieurs cas. D'ailleurs, l'animateur de l'émission Les Poilus à Radio-Canada a révélé à tout le monde en parle que son réseau de filiales au niveau des vétérinaires ont été frappés de cette attaque durant la pandémie. T'imagines, ça a été des frais $1 million en ce qui les concerne. Mais un CRM qu'on appelle de vente, alors ça permet de faire d'excellents suivis. Alors, il y en existe plusieurs. Vous pouvez penser, entre autres, au système Odoo, O-D-O-O. Il y a Centrix One qui est très, très, très réputé également. Donc, ça permet de générer des rapports. Ça permet, à ce moment-là, d'importer des listes de clients, des listes de fournisseurs, de faire le suivi aussi des ventes. Donc, si vous avez plusieurs représentants, ben vous pouvez voir, finalement, en temps réel, la qualité, finalement, du travail qui est fait par chacun des représentants. Donc, vous pouvez les comparer. Si vous avez, par exemple, 5 représentants, vous pouvez voir le volume, par exemple, de clients qu'ils vont mettre dans la plateforme. Ça va vous permettre de voir aussi les appels qu'ils placent, les suivis courriels qu'ils font. Également, vous pouvez lancer des campagnes courriels. Vous pouvez brancher votre site Internet directement à cette plateforme. Donc, ça vous permet d'aller chercher des rapports qui sont très intéressants à ce moment-là pour améliorer la performance de la compagnie. Vous avez des gabarits aussi qui sont créés pour les courriels. Donc, quand vous voulez, par exemple, parler de vos promotions, vous voulez parler de vos services à l'ensemble de vos clients, générez aussi des campagnes de façon automatique parce que vous avez droit aussi de prendre des vacances, de prendre des congés. Donc, si vous voulez, par exemple, faire des lancements à toutes les semaines, mais vous pouvez déjà les préparer d'avance, comme vous pouvez le faire aussi avec les réseaux sociaux. Donc, quand vous avez un CRM de vente, comme ça, ben c'est un équipement qui est vraiment performant. Ce n'est pas une dépense, ça devient vraiment un investissement. Et c'est une façon aussi, si vous avez des associés, d'avoir des rapports quand vous avez des réunions, de pouvoir rapidement jeter un coup d'œil sur les performances des individus, performances de l'entreprise, prendre des bonnes décisions, des décisions éclairées avec les vraies statistiques, donc avec vraiment ce que vous faites comme travail. Vous pouvez aussi installer des tâches à certaines personnes de façon dédiée. Donc, il y a une foule de choses. Et souvent, ce qui arrive dans ce genre d'application, de plateforme, il y a aussi de l'information parce que parfois, il y a des gens qui vont dire « Ah, moi, je suis pas tellement fort avec l'informatique. » Mais il y a des tutoriels, des webinaires. Donc, vous pouvez visionner des vidéos, vous pouvez voir des textes. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise à lire, ben vous pouvez écouter simplement les vidéos. Et puis les arrêter au moment ce que vous voulez, puis intégrer finalement l'information dont vous avez besoin, que vous avez besoin de comprendre pour être capable de bien utiliser la plateforme. Donc, ceux qui sont réfractaires au changement, dites-vous qu'il y a des entreprises concurrentes qui vous doublent pendant ce temps-là sur la gauche.
C'est ça, puis vous les voyez pas venir, puis vous les voyez pas passer devant et pas mal devant. Hein. On n'a pas le choix là, aujourd'hui. Là. Si tu veux être dans le trafic, il faut que tu t'investisses.
Tout à fait, exactement. Donc, il y a des bons outils qui sont justement disponibles, puis il s'agit de s'ouvrir au changement, parce que qui ne fait pas ça, ben à ce moment-là, si on est dans l'immobilisme, qui marchait avant, mais ça ne veut pas dire nécessairement que ça va marcher demain. Alors, soyons ouverts, puis utilisons ces bons outils.
Ben merci beaucoup là-dessus, mon cher Denis. Puis je sais pas si tu vas acheter le nouveau jeu des Canadiens, Serpent Échelle, c'est pas mal ça, leur saison, hein?
Ben, écoute, c'est vraiment ça qui arrive. C'est vraiment une saison en dents de scie. Et quand on dit en dentis, ben ça peut être en dentis SCIE, mais ça peut être en dentis. Ben si Jonathan Drouin avait bien fonctionné, t'as vu la nouvelle là, comme quoi qu'il est à l'écart du jeu pour des raisons personnelles.
Est-ce que tu penses que c'est problème de santé pour lui-même ou sa famille ou sa conjointe plus lui, hein, j'ai l'impression que c'est pas facile jouer à Montréal. Puis les plus durs commentaires viennent pas de partisans de Boston ou d'une autre équipe. C'est les propres partisans du CH qui sont très durs, avec surtout un Québécois.
C'est un Québécois, puis la qualité première de Drouin, c'est un marqueur, puis il a besoin de son lancer. Et la blessure de l'an dernier au poignet, c'est un handicap, puis il l'a encore dit dernièrement, puis c'est un jeu qui est tellement rapide. Donc, deux buts actuellement. C'est sûr qu'il n'est pas fier de ça, mais si le corps n'est pas là pour suivre, puis il semble-t-il que chez Weber, c'est la même chose aussi. On commence à même à parler de retraite possible dans le cas de Weber. On le voit qu'il joue handicapé, mais on n'a jamais comme tel le portrait réel de l'état de santé. Puis effectivement, il vit la pression dont tu viens de parler.
Oui, oui. Ben merci beaucoup, Denis. Ça a été, comme d'habitude, fort intéressant. On se rejase de d'autres sujets. Tout ça la semaine prochaine, même heure, même poste, comme on dit.
Certainement la semaine prochaine.
Bye-bye.
Au revoir.
Denis Foucault, qui nous parle comme ça, en direct de Trois-Rivières, à tous les mercredis après-midi.
Cette chronique Communication Actualité était une présentation de l'agence Les Fous de la Com, spécialisée entre autres dans la rédaction de sites web.